Philippiens chapitre 2. Ce matin, nous allons voir sur l'égoïsme. Et nous allons voir, non seulement dans Philippiens 2, mais une illustration à travers l'histoire qui était très intéressant pour moi, très fascinant, très triste, très triste, mais très fascinant. Et très à propos pour le message de ce matin. Avez-vous déjà entendu parler de Dracula? Alors vous allez dire, pasteur, bon, pourquoi on va parler de Dracula quand on parle de Philippiens 2? Eh bien, on ne va pas parler du conte Dracula, de l'imaginaire, mais on va voir le vrai personnage historique Dracula tout à l'heure. Et voir le rapport avec Philippiens chapitre 2. Le titre donc c'est sacrifice ou égoïsme. Sacrifice ou égoïsme. Ou encore intérêt de Christ ou intérêt propre. On va lire à partir du verset 17. Verset 17. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. J'espère, dans le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. On va relire verset 21. Lisez avec moi. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis, et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins, car il désirait vous voir tous. Elle était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu qui a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de supplier à votre absence dans le service que vous me rendiez. Et vous allez encore me joindre à relire verset 30 ensemble, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de supplier à votre absence dans le service que vous me rendiez. On va prier. Père éternel, merci pour ta parole ce matin, Philippiens chapitre 2, versets 17 à 30, Seigneur Dieu. Merci pour le sujet dont il parle, Seigneur Dieu, les exemples qu'il donne, la cause qui est en vue. On te prie, Seigneur, de m'aider à bien exposer droitement le sens de ta parole et permets-nous de comprendre et d'appliquer le sens de tes paroles à nos cœurs. On te prie selon le besoin de chacun, Seigneur, que ce soit pour le salut, que ce soit pour la repentance et la foi, pour le salut, ou que ce soit pour vraiment le service, Seigneur Dieu, pour ceux d'entre nous qui avons cru. On te prie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Donc, nous voyons ici sacrifice ou égoïsme. On a lu, vous avez lu avec moi deux versets principaux ou deux versets clés dans ce passage. Un sur avoir ses propres intérêts. Et l'autre sur être un sacrifice pour la cause de Christ, se sacrifier et avoir l'intérêt de Christ. On voit premièrement les personnes impliquées. On voit 5 exemples à travers le passage. Premièrement, verset 17, Paul. Paul est un sacrifice. Paul est un sacrifice. Plus littéralement, une libation, comme il dit au verset 17, et même si je sers de libation. Comprenez-vous, dans l'Ancien Testament, avec les sacrifices qu'ils offraient, il y avait souvent une libation, quelque chose qui accompagnait, une offrande liquide pour accompagner le sacrifice. Donc ça faisait partie du sacrifice. Et Paul utilise un petit peu l'illustration que lui-même, il se voyait comme une libation pour leur sacrifice. Ensemble, ils allaient donc servir Christ, être la libation et être le sacrifice pour la gloire et la cause de Dieu. Sa vie ne comptait plus. Qu'il soit simplement tué comme un martyr, qu'il meure parce qu'il s'est donné trop, son corps en a trop pris de coups, qu'il soit naufragé, qu'il meure noyé parce qu'il cherche à aller toujours plus loin pour l'Évangile. Donner sa vie pour Christ n'était pas du tout une frayeur pour lui. C'était quelque chose qu'il était prêt à faire parce qu'il était dédié à la cause de Christ et s'il fallait que sa vie passe, sa vie passerait. Il en serait content. D'ailleurs, jusqu'à la fin, il avait cette attitude et ce dévouement. 2 Timothée 4,6, car pour moi, je sers déjà de libation. Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et donc, jusqu'à la fin, Paul voulait servir et se sacrifier, être une libation pour le sacrifice, hein, ici, dans le contexte des Philippiens. D'ailleurs, c'est notre prochain personnage, entre guillemets, les personnes impliquées, ce sont les Philippiens, verset 17. Comme il dit, « Si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je vais me dévouer pour que vous puissiez grandir, pour que vous puissiez vous dévouer, pour que vous puissiez vous sacrifier pour la cause de Christ. » Et les Philippiens, on voit qu'ils avaient pris cette importante chose, priorité de l'apôtre Paul, parce qu'eux-mêmes, ils voulaient que l'Évangile aille plus loin, eux-mêmes avaient fait parvenir avec Épaphrodite des dons pour ce que Paul avait besoin, pour qu'il puisse continuer à servir Dieu, avoir ses besoins remplis pour pouvoir servir Dieu. Les Philippiens eux-mêmes, donc portant la parole de vie, eux-mêmes avaient pris part à l'Évangile, et eux-mêmes, ils avaient part au combat, eux-mêmes donc, ils avaient une vie de sacrifice et de dévouement donc pour l'Évangile. Le troisième, voyez-vous le troisième dont il est question dans ce passage. Je vous réfère donc maintenant au troisième, c'est au verset 19. Timothée, exactement. Paul envoie Timothée. Et Timothée ne va pas dire, attends, mais je vais missionner Paul, ça ne m'intéresse pas. Autre chose, ça ne tente pas vraiment d'aller là, peut-être ailleurs, ou peut-être plus tard, mais en ce moment ça m'intéresse. Non, non! Paul, tu as besoin que j'y aille? Je suis ton homme. Dis-moi quand, dis-moi où. Tu demandes-moi n'importe quoi. Je ne vais pas te dire, non, je ne pense pas que c'est. Il a dit, je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Timothée les partageait. C'est pour ça que c'est Paul qui a envoyé Timothée. Timothée n'était pas comme un fils rebelle. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Donc pas un enfant rebelle, mais comme un enfant prêt à obéir de tout cœur. Un fils rebelle, mais un fils tendre et réceptif, un fils prêt à développer le même cœur, la même dévotion, le même service que son père spirituel. Timothée n'avait pas vraiment comme père Paul, mais spirituellement parlant, oui. Et donc Timothée était un sacrifice, vivait une vie de sacrifice pour la cause du Seigneur Jésus. Ça, c'est le troisième personnage qu'on voit dans le texte. Maintenant, le quatrième personnage, ou les personnes impliquées ici, quatrièmement, au verset 20 et 21. On va y arriver, ça c'est le cinquième. Avant Épaphrodite, on a l'entourage de Paul. Tous, en effet, cherchent à leur propre intérêt. Il dit, je n'ai personne ici. Là où ce que Paul écrit, c'est à partir de Rome. À Rome, il y avait une église. À Rome, il y avait des croyants. Mais aucun des croyants qu'il y avait à Rome n'était prêt à faire le long voyage pour s'informer comment allaient les Philippiens, comment est-ce que Paul pourrait prier pour eux, qui est-ce qu'il aurait besoin d'envoyer pour eux. Paul, c'était pas le jour des téléphones, hein. Paul ne pouvait pas aller sur son WhatsApp et dire « Allez, les Philippiens, comment ça va aujourd'hui ?» Allez, on fait un petit peu, il y avait du chat, ah ouais, je vous vois même. Il n'y avait rien de cela. Il n'y avait même pas un service de poste. Tiens, voici la boîte aux lettres. Allez, on met. Il n'y avait même pas ça. Il y avait, ah tiens, j'ai besoin de quelqu'un pour m'amener un message là-bas. Allez, ça prend beaucoup pour envoyer un message à ce moment-là. Et Paul, apparemment, dans le contexte, apparemment qu'il avait. Mentionner le besoin pour qu'il sache que personne ne voulait le faire. Il a dit j'ai besoin de le prendre à propos des Philippiens, il n'y aurait personne qui serait prêt à faire le voyage, je ne pourrais pas aller les visiter, les encourager pour moi, s'informer d'eux, puis revenir. J'ai trop de choses en ce moment, je risque d'être malade en voyageant, peu importe, toutes les raisons étaient bonnes. Selon les gens, non. Et Paul, il résume tout ça. Chacun cherche leur propre intérêt. Une église probablement moyenne. Les cols du dimanche se faisaient. Le conducteur de chant faisait. Le pasteur prêchait. Une église moyenne, probablement. Mais ce dévouement total de dire « Ok, je suis prêt à sacrifier, j'ai 3 semaines de vacances, c'est bon, j'y vais. » « Ah non, ça ne m'intéresse pas d'y aller, 3 semaines de vacances, je vais les prendre pour moi. Ah non, je ne peux pas arrêter mon travail. » Peu importe, là c'était « Non ». Non, ça ne m'intéresse pas de faire ce long voyage, d'aller voir les Philippiens puis de revenir. Et Paul résume tout ça, c'est de l'égoïsme. Chacun cherche son propre intérêt. Chacun cherche à trouver. Ouais, je suis prêt à servir du moment que je n'y perds pas tout, du moment que je me retrouve un peu, du moment que, etc. Chacun avait un petit peu ses réserves, ses conditions. Et en fin de compte, voilà. Pas mes intérêts. Oh, on va y revenir, l'égoïsme. Et le dernier, ça a été mentionné, Épaphrodite, verset 30. Il les envoie à Épaphrodite, mais Épaphrodite n'allait pas pour revenir. Donc c'est pour ça qu'il envoie Timothée. Timothée, il y allait pour revenir. Épaphrodite retournait pour servir avec eux. Épaphrodite avait été envoyé par les Philippiens pour envoyer leur don missionnaire à l'apôtre Paul. Et ce voyage, c'était pas facile. Il avait risqué de mourir. Il ne l'explique pas dans tous les détails, mais il dit c'est à cause de Christ, donc de l'œuvre de Christ, qu'il était proche de la mort. Il est tombé gravement malade. Peut-être qu'il a attrapé une pneumonie, une grosse tempête, un grand froid ou quelque chose, une grosse pneumonie, il était proche de mourir. Il n'aurait jamais été malade s'il n'aurait pas fait ce voyage, apparemment. Mais il était prêt à le faire. Parce qu'il y avait une cause, la cause de Christ. Épaphrodite avait un cœur de sacrifice. Il n'est pas le premier, il n'est pas le dernier. C'est-à-dire, ce n'est pas ce que je peux en retirer qui compte, c'est comment est-ce qu'on peut faire avancer l'œuvre de Christ. Je pense à Alfred Sacker, un missionnaire en Afrique dans les années 1850 et 1880, souvent alité par la fièvre. Une sorte de maladie tropicale. Il devait quitter le champ missionnaire jusqu'à 5 reprises pour se refaire une santé. Est-ce qu'il a appris sa leçon pour dire « Je ne vais pas retourner là, je vais encore devenir malade. » Non ! Je suis meilleur, j'y retourne. Il y a une cause. Tu retournes malade. Avant de mourir, l'occasion de se rétablir. Gloire à Dieu. Allez, je suis rétabli, je retourne. Ils ont besoin d'entendre parler de Jésus. C'est pas la cause personnelle que Alfred Sacker cherchait. C'était une vie de sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il y a une cause. Christ ne désire pas qu'aucun périsse, mais tous entendent parler d'Évangile. Et cette cause, elle était éternelle. Et elle était donc très valable. Et ça valait le prix de sacrifice. David Brinner, un missionnaire aux Amérindiens ici en Amérique du Nord, un des premiers à aller vers les Amérindiens. Il est mort à 29 ans. La santé détruite. Il souffrait de tuberculose. Il avait une santé fragile dans sa jeunesse. Mais est-ce que ça l'a empêché pour dire « je vais aller » et « je sais que ce ne sera pas facile ». Ce n'est pas comme l'Amérique du Nord toute développée avec les autoroutes, avec les Chinois à tous les coins de rue, etc. Et l'occasion de voyager facilement. Là, c'était la brousse. Hein? C'était « allez, il n'y a pas de chemin, mais je vais aller. » Puis je vais aller chercher à leur faire connaître l'Évangile. Mort à 29 ans. Une vie de sacrifice. Adoniram Johnson, perdu leur premier enfant à 8 mois. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans une place tellement facile à vivre? Non. Très difficile. Beaucoup de maladies. Lui-même étant emprisonné 21 mois pour n'avoir rien fait. Il a frôlé la mort bien des reprises. Vie de sacrifice. Adoniram Johnson, on n'aurait pas pu dire de lui... Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt. Non, pas Adoniram Johnson. Maintenant, quelle est la cause qui est en jeu? Deuxièmement, on a vu les personnages impliqués, premièrement. Deuxièmement, la cause en jeu, c'est le combat. C'est les intérêts de Jésus-Christ. Il mentionne au verset 25, « Mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat. » Il avait mentionné aux Philippiens, au chapitre 1, « Il nous a été fait la grâce, non seulement de croire en lui, mais de... » souffrir pour lui, en soutenant le même combat. Il y a un combat. Jésus-Christ a des intérêts éternels, mais il y a un ennemi qui veut s'opposer à Christ. Et Christ va avoir le dernier mot un jour. Satan va être éternellement donc envoyé dans le lac de feu en temps et lieu. Mais pour l'instant, l'ennemi, il lutte encore, il combat. Il ne veut pas que personne se convertisse. Il ne veut pas que les gens entendent l'Évangile. Il ne veut pas que les chrétiens vivent des vies pleines de fruits. Mais plutôt qu'ils deviennent des épaves, comme Lot, sa vie était un désastre pour le Seigneur. On a un combat, il y a une cause en jeu. Et c'est impliqué ici dans les sacrifices qu'il est mentionné. C'est la cause de Christ, les intérêts de Christ. Maintenant, je vous ai parlé de Dracula. Ben, mon épouse avait acheté ça. Et puis finalement, j'ai fait à travers un livre très très intéressant sur les défendeurs de l'Ouest, les héros chrétiens qui ont tenu contre l'islam. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux beaucoup sur la nature de toutes les guerres islamiques, croisades, etc. Vous savez le djihad, la guerre sainte. Vous avez entendu parler de ISIS moderne? Qui était tellement cruel, qui rentrait dans les places, qui tuait beaucoup de gens, les infidèles, qui prenait les esclaves, souvent les femmes, pour en faire des esclaves, vous savez ce que je veux dire. C'est rien de nouveau, ça, à travers l'histoire. Et donc, j'ai pensé, tout à travers ce livre-là, j'ai pensé, tiens, ça illustre à quel point ces principes-là, ça les illustre, parce que là, surtout ce matin, on va parler de l'Empire ottoman, l'Empire turc, qui s'est allé du XIIIe siècle jusqu'au XIXe, XXe siècle. C'était très long comme empire. Et c'est devenu immense. Mais l'Empire ottoman était comme ISIS aujourd'hui. C'était leur mode d'opération, c'était d'envahir, créer la terreur, semer la terreur, diviser et conquérir, c'était de massacrer, c'était de prendre des esclaves par milliers et en fin de compte par millions à travers les siècles. Et tout cela pour s'agrandir, jusque dans l'Europe. Il y a encore aujourd'hui des pays qu'ils ont pris qui sont encore 50% musulmans. Donc, nous allons voir aujourd'hui quelques illustrations de cela, parce que On va faire le lien, la différence justement entre la cause de la liberté dans ce monde et celle qui est éternelle. Il n'y a pas de différence. Ben, il n'y a pas de similarité. La différence est totale. Mais les choses qu'on peut apprendre sur la guerre entre ceux qui veulent oppresser, ceux qui veulent envahir, ceux qui veulent défendre et ceux qui se tiennent debout contre cette oppression-là, il y en a eu de toutes les générations et il continue à en avoir encore aujourd'hui. On peut apprendre des leçons de ces guerres-là et comment elles se jouent, ces guerres-là, et comment se joue la victoire dans ces guerres-là, et les appliquer justement avec ce que la Bible dit et voir comment les principes de la Bible se manifestent à travers ces guerres-là. Donc, ça, c'est l'Empire ottoman. Les verts clairs, c'est les pays qui ne contrôlaient pas directement, mais qui étaient soumis, qui leur payaient un tribut et qui faisaient leur volonté. On voit que ça inclut, justement, ici, c'est en 1583, l'histoire de Dracula, là, de le troisième Dracula, se joue sur cette région ici, de la Valachie, au sud du Danube. Donc, au moment que nous en parlons, l'Empire turc a le sud de du Danube. Et là, on parle de la Valachie qui est aujourd'hui en Roumanie. C'est là que, justement, en 1450, se joue ce territoire de la Valachie. La Valachie était un petit peu soumise à la Hongrie, mais avec son propre reine, là, Voivode, comme il les appelait. Et le roi de Hongrie était en guerre donc contre l'Empire turc, pour essayer de se protéger contre l'Empire turc. Et donc nous allons juste voir quelques exemples de justement la manière que se joue cette histoire à cette époque-là et comment c'était l'égoïsme du peuple, pas turc. Laissez-moi me reprendre. L'égoïsme turc était total. Je veux et je veux toujours plus, je veux pour moi, et c'était l'oppression totale. C'était toujours plus de territoire, plus d'esclaves. Leur économie marchait par esclaves. Il y avait des millions et des millions et des millions, plus de millions d'Européens qui ont été pris à travers les siècles par l'Empire turc que de millions d'esclaves qui ont fait le transatlantique. Imaginez, c'est pour dire. Mais pourtant, à l'école, on n'entend pas parler beaucoup de cela. Et c'est vraiment triste. C'est pour ça que c'est important qu'on sache à quel point l'Empire turc, l'Empire ottoman, c'était un empire qui était basé sur l'esclavage. Et d'aller toujours prendre des nouveaux esclaves, de toujours garder le marché des esclaves, c'était l'orgueil et l'égoïsme total. Mais nous allons voir que la défense contre cet empire-là, c'est l'égoïsme qui est venu dérailler la défense vis-à-vis de cela. Donc, là, nous commençons l'histoire avec le père de Vlad III, Vlad II, qui est appelé Dracula, ça veut dire l'ordre des dragons. Et pour nous, on retient le terme Dracula. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est devenu populaire comme terme avec le conte qui a été écrit en 1897. Donc c'est de là que vient le mot Dracula. À ce moment-là, ce n'était pas ce que nous on pense, parce que nous on est tellement un peu comme familiarisés avec toutes les choses depuis 100 ans. Dracula, c'est un vampire. Mais le terme au départ, c'est simplement l'ordre de dragons pour la défense justement du christianisme, oui, surtout, et de l'empire justement sous le pape. Et le père avait été nommé donc défenseur du christianisme sous l'ordre des dragons, Dracula. Mais il commence à être tiraillé, les Turcs mettent beaucoup de pression, et finalement, il cède un peu à devenir vassal. Vassal, ça veut dire qu'il va payer des tribus, et il y a une sorte de tribu qui est très, très, très cruelle. Les Turcs avaient établi ce qu'on appelle une armée de janissaires. Janissaires, c'est simplement, ça réfère dans la langue turque, une nouvelle armée. Et quelle est cette armée-là? C'était une armée qui avait été créée dans leur enfance du pays qu'ils envahissaient. Ils prenaient dans les pays catholiques, chrétiens, des enfants.
des garçons, des jeunes garçons. Il les prenait en otage et il les envoyait dans des institutions d'entraînement militaire. Bien sûr, il les rendait musulmans, il les forçait à devenir musulmans dans leur jeunesse. Et c'était, il les rendait des soldats fanatiques. Il les entraînait tout le temps pour la guerre. C'était devenu une garde spéciale du sultan, les janissaires. Et ensuite, il leur retournait cette armée de jeunes qu'il avait pris, de femmes et d'hommes et de pères et de mères et de familles. Ils les ont pris comme otages pour en faire des guerriers, pour ensuite les retourner combattre contre leur pays d'origine et leur famille d'origine. Cruel, comme ça se peut pas. Une institution qui était sur des siècles, cette armée de janissaires, c'était l'armée d'élite des Ottomans. Donc, Vlad II se sent sous pression, contre cœur, il accepte d'être vassal, autrement ça aurait été l'invasion. Dans sa tête, il n'y avait pas d'autre chose, alors il accepte de soumettre ses deux fils à être otages, parce que c'était le tribut que leur demandait le sultan. Alors voilà que Vlad III et son frère Radu deviennent otages, deviennent donc islamisés, ils se convertissent de force, et ils sont aussi molestés, et Vlad avait beaucoup de prouesse dans l'armée, etc., comme soldat. Il avait été formé donc comme un général des janissaires, pas un soldat de janissaire, mais comme quelqu'un de haut gradé qui est influent. Et Radu, il est devenu, on va y revenir à Radu. Mais voilà que ils grandissent, et là il se démontre par devenu jeune homme, il démontre une loyauté pour leur sultan. Ben, ils savent que si ce n'était pas ça, c'était la tête qui passe. Le sultan envoie donc, quand il est assez âgé, à 18 ans, il envoie donc son loyal Vlad III pour commencer à régner sur la Valachie. Bon, ça ne dure pas longtemps. 2 mois ensuite, il disparaît 6 ans à peu près. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est allé faire. Mais quand il ressort, il reprend donc le contrôle de Valachie, parce qu'il était un de ceux qui avaient le droit de régner, et il s'est imposé. Et là, je vais résumer un peu plus vite. Là, il y a un tiraillement. Est-ce qu'il va être vassal des Turcs ou est-ce qu'il va être loyal à la Hongrie? Normalement, Valachie appartient à la Hongrie. Il écrit au roi de Hongrie, lui mentionnant son allégeance, tout cela. La Hongrie ne répond pas, il ne lui envoie pas de soutien ni rien. J'ai oublié de dire, son père avait, quand il était devenu vassal, ça avait permis aux Turcs d'envoyer une armée pour envahir, pour faire une incursion dans Transylvanie. Ils n'étaient pas prêts à l'envahir pour y rester, mais ils ont pris 40 000 esclaves dans ces mois-là d'incursion. Après là, ces 40 000 esclaves, sans parler de tous ceux qui sont massacrés. Donc vous pouvez vous imaginer, quand un devient vassal, il devient un pion qui aide les Turcs à envahir d'autres places. Donc, sachant que c'est ce qui est maintenant la pression que Vlad III ressent de l'Empire turc, pour dire « Hey, j'ai été envoyé ici pour être leur vassal, mais la Hongrie, venez, soutenez-moi, parce qu'autrement, c'est vous qui allez être envahis. Là, ils veulent retourner dans le Transylvanie comme avant. La Hongrie n'envoie pas d'aide. » Mais là, Vlad III, qui avait converti de force à l'islam, là, maintenant qu'il avait s'est rétabli dans sa force à Valachie, là, il se démontre clairement un défenseur de son peuple contre les Turcs. Et il raboue les envoyés turcs qui viennent chercher le tribut. Il voulait 500 enfants cette année-là. Il écrit encore au roi d'André, disant ce qui se passe et qu'il ne va pas accepter. Mais même avant qu'il envoie la lettre, il se met en chemin pour y aller. Avec 50 premiers enfants à donner comme otage, et sa suite pour accepter les demandes de la Turquie. Sauf que c'est une ruse. Sa petite suite, sa garde personnelle est armée jusqu'aux dents. Les 50 enfants, ils savent qu'ils ne vont pas être relâchés. Là, le reste des hommes, des soldats de Vlad III sont dans les montagnes prêts à descendre. Et en fin de compte, là, au lieu de plier le genou devant les émissaires du sultan, là, ils démontrent leurs vraies intentions. Ils les prennent, ces deux émissaires-là, et ils les font empaler. Empaler, oui, empaler. D'ailleurs, c'est un des surnoms de Vlad III. Dracula, l'empaleur. Mais où est-ce qu'il a appris d'empaler? C'était une pratique des Turcs. Quand ils ont pris Constantinople, ils ont empalé tellement de personnes. C'était une pratique, une coutume des Turcs d'empaler et même de tuer quelqu'un par l'empalement, par l'orifice qu'on utilise quand on va aux toilettes. Même donc, j'essaie de dire ça très très poliment. Mais c'est affreux. Ça vient des Turcs. Et juste une parenthèse qu'il a cité, un des chaînes de radio, pas des chaînes de nouvelles, disait que ici aujourd'hui, ont appris toute leur cruauté de Vlad III Dracula. Ce n'était pas des musulmans qu'ils avaient appris ça, mais ils veulent pas dire que Vlad III, il avait appris tout ça parce qu'il avait été élevé à devenir un musulman loyal et cruel et tout ça. Il avait été élevé là-dedans parce qu'il avait été pris comme étage quand il était jeune. C'est de là qu'il a appris ces choses-là. Alors il a empalé avec un haut piqué, parce que c'était des émissaires très nobles, il a pris des hauts piqués pour les empaler, ces émissaires-là. Et ensuite, il a commencé à faire des incursions, passer le Danube, et vraiment gagner tout le territoire. Là, maintenant, le roi, le sultan, là, c'est la guerre. Plus d'essayer de diviser, conquérir, mais là, clairement, il envoie à travers tout l'hiver des préparations pour tout son empire. 150 000 à 300 000 soldats arrivent et se préparent à attaquer la Valachie. Il écrit à roi d'André, venez nous aider à combattre. Tu sais, si tu ne le sais pas, je te l'apprends. J'ai fait des incursions dans les régions de la Turquie. Je me suis rendu clairement contre eux. Et maintenant, ils vont envoyer une énorme armée. Mais cette énorme armée-là, si tu ne le sais pas, ils ne vont pas s'arrêter jusqu'à nous. Ils vont ensuite vous avoir. Alors, choisissez de vous battre avec nous, loin de vos propres familles, pour les protéger. Aucune réponse. Aucune réponse. Et malheureusement, quand l'armée arrive, non seulement ils devaient se battre contre les Ottomans, mais ils devaient se battre contre la Moldavie, qui était à ce moment-là considérée la Valachie mineure. Et c'était nul autre qu'un cousin de Vlad III, que Vlad III lui-même avait aidé à rendre régnant sur la Moldavie, sur la Valachie mineure, 5 ans avant. Eux, voyant l'attaque des Turcs, s'est dit c'est un bon temps de nous agrandir un peu le territoire, des territoires qui sont contestés, on va les reprendre. Alors maintenant, Vlad III a besoin de se battre non seulement devant les Turcs, mais contre la Moldavie. Est-ce que la Moldavie était musulmane? Pas du tout. Il professait la même foi, chrétienne, entre guillemets. Les mêmes valeurs, entre guillemets. Mais voyez-vous que chacun cherche son propre intérêt. Chacun cherche son propre intérêt. La Hongrie cherche son propre intérêt. La Transylvanie, à un moment donné, a usé de traîtrise pour essayer d'enlever Vlad III pour un autre. La noblesse était toujours cherchant quelle affaire à faire le mieux. Que ce soit avec les Turcs, que ce soit avec la Hongrie, on va voir, ça va dépendre. C'est toujours chacun cherche son intérêt. Longue histoire courte. Mais ils sont 150 à 300 000 contre 30 000. Il n'y a pas moyen pour Vlad de complètement de leur faire face directement. Il choisit des tactiques de guérilla.
Alors, c'est des petites incursions ici et là dans cette armée. C'était prendre les restes d'armée qui sont sur le bord et ce genre de choses, se cacher dans les montagnes. Avant de se mettre, ces 30 000 ensemble, ils avaient pris leurs femmes et leurs enfants et les ont cachés dans les montagnes, dans des places qu'ils connaissaient, parce qu'ils savaient que 150 à 300 000 hommes, puisqu'ils ne pouvaient pas leur faire face directement, bah, cette armée-là était libre de piller, de saccager, de tuer les villages et les villages. Alors c'est comme ça que ça va. Sauf que Vlad III, qui avait établi une réputation de terreur, pas pour la cause de semer la terreur, mais simplement parce qu'il avait une cause et il connaissait que l'ennemi qu'il faisait face, auquel il faisait face, c'était un ennemi cruel, c'était un ennemi trompeur, c'était un ennemi qui va revenir sur ses déclarations de paix, etc. C'est un ennemi qui, il faut lui montrer notre sérieux et le terroriser. C'est pour ça que il est devenu connu pour remballer. Comment? Parce que toutes les personnes qu'il avait prises quand il avait fait des incursions, il les avait empalées autour de son château. Ça faisait une forêt de 6 km de rayon. Une forêt d'empalés à diverses hauteurs, dépendamment de la noblesse de la personne qui est morte, à peu près. Très rapidement, une nuit, Vlad III a surpris, parce que là, avec ses 2000 à 7000 chevaliers, il est rentré de nuit pour chercher à tuer uniquement le sultan. Ben, il a tué beaucoup d'autres, mais c'était le sultan qu'il cherchait. Il a directement visé le campement et les tentes du sultan. Et il est parti au lever du jour. Il a laissé beaucoup, beaucoup de morts et lui-même a perdu très peu d'hommes. Le sultan l'a terrorisé. C'était la première fois que le sultan avait été visé comme ça, entouré d'une énorme armée. Comment est-ce qu'il a pu oser faire et réussir à même faire la tentative? L'histoire continue aussi. Là, ils se dirigent vers la forteresse de Vlad III et ils arrivent à la forêt des empalés. Ils deviennent tellement terrorisés, l'armée devient tellement terrorisée. Le sultan, cette nuit-là, fait creuser une tranchée encore plus profonde que d'habitude. Il a tellement peur qu'il se fasse attaquer encore de nuit et ça ne l'a pas arrêté. Ce soir-là encore, Vlad III est rentré de rapidité pour chercher à le tuer, n'a pas réussi, il est reparti. Le sultan s'est dit, ça ne vaut pas. La Valachie ne vaut pas le prix de la paix. Je vais repartir avec mes 150 à 300 000 hommes. Ben là, il y avait beaucoup moins. Il y a beaucoup été mort. Je ne sais pas combien il lui en restait, mais c'était encore une énorme armée. Mais il a repoussé chemin. La grande victoire a été proclamée dans l'Europe, tout ça, c'était incroyable. La grande victoire qu'une petite armée de rien a fait rembourser, a rebrouillé chemin au grand sultan. Et le sultan, il avait peur de Vlad l'Empaleur. Maintenant, la Hongrie. Après ça, il s'est tourné à la ruse. Il n'a pas réussi à le prendre directement par la force, mais il envoie Radu. Radu, c'est le frère de Vlad III. Mais Radu lui-même avait été pris de force. Certainement au début, il résistait. Mais après ça, il était loyal complètement au sultan. Et lui, il n'avait pas de règne aussi, parce qu'il était le fils du dernier roi. Il a envoyé Radu pour parler aux nobles. Hé, les nobles, là, vous vous faites saccager à chaque fois que l'armée rentre. Et mon frère, Vlad III, il cherche à résister, mais c'est stupide parce que le sultan est tellement fort. Il vaut mieux négocier avec nous pour faire une paix. Radu était celui qui avait dit aux musulmans où étaient les cachettes dans les montagnes. Il a pris consolation quand ils ont rebroué chemin. Ils ont pris beaucoup des femmes et des enfants que les soldats des Valachiens avaient cachés. C'est Radu qui les a vendus pour l'esclavage. Radu, qui a préféré, qu'est-ce que suivre ses propres intérêts et se joindre à l'égoïsme qui pouvait retirer une gloire. Très rapidement, la Hongrie, Vlad III, et puis souvent, pour demander du soutien,
Là, on lui envoie une troupe de soldats. Le roi les accueille.
Pour ne découvrir que ils sont venus pour le mettre en prison. Il y en avait des nobles de la Valachie qui avaient écrit des fausses lettres au nom de Vlad III au roi de Hongrie pour dire « Je vais me rendre, je vais devenir vassal » et puis tout ça. Et alors le roi de Hongrie fait arrêter Vlad III, le met en prison. Mais il y a plus de l'histoire que ça. Le pape avait donné au roi de Hongrie de l'argent pour soutenir Vlad III dans ses luttes contre les musulmans. Mais des tourments de fonds. Et là, il avait besoin de répondre de ces fonds-là au pape. Pourquoi est-ce qu'il ne l'avait pas soutenu? Pourquoi il n'avait pas envoyé des soldats, tout ça? Alors, il a fait beaucoup d'histoires sur, justement, il était sadique, beaucoup de choses ont été publiées pour montrer que Vlad III, oh là, c'est un sadique, c'est un fou, et c'est là que beaucoup d'histoires sur tout ce que maintenant on pensait à Dracula comme vampire, ça a été encore plus changé, mais déjà, pourquoi est-ce que l'auteur en 1897 qui a écrit Dracula a pris Dracula? C'est parce qu'il y avait ce personnage historique, Vlad III Dracula, duquel avait été écrit toutes sortes de fausses choses exagérées, à quel point il était quelqu'un qui était sadique, qui aimait manger sur autour des gens en palais, tout ça. Et pourquoi? Parce que la Hongrie, le roi avait besoin de défendre du fait qu'il n'avait pas soutenu beaucoup de choses qui ont été écrites de faux sur Vlad III, et ça lui donnait raison de le mettre en prison. Après ça, il l'a libéré 2 ans après, voyant qu'il n'avait besoin de lui, parce qu'autrement il allait se faire avoir. Mais tout ça pour dire quoi? Maintenant, on va arriver au point. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Voilà ce qui est, selon les portraits, etc., qui a été donné. Mais dans ce monde, il y a l'égoïsme total, illustré ici par les Ottomans, le sultan, simplement je veux, je prends, je vais tuer, je vais faire avec, etc., je vais mentir pour avoir ce que je veux, je vais conquérir et diviser, méchanceté, cruauté. Dans ce monde, ceux qui se sont levés contre ça pour dire non, je vais me battre, je vais défendre, je vais... Il y en a qui, la 3, il s'est tenu contre ce mal et contre les injustices. Oui, il était sévère. Est-ce que j'appuie, parce que je le mentionne, est-ce que j'appuie toutes ces techniques? Pas du tout. C'est un converti, c'est un catholique, pas selon l'évangile. Est-ce que je soutiens? Non, c'est pas le point. Mais le témoignage de l'histoire, c'est quand même, il était sévère, très sévère, mais il était juste. C'était pas pour son propre bien. Il avait des principes. Mais certainement, on voit ça dans ce monde. Il y en a qui sacrifient beaucoup pour la cause de la justice, pour la cause de la liberté. Dans ce monde. Mais nous devons considérer, selon la parole de Dieu, l'étendue éternelle. Parce que même si la Valachie était libérée du temps de Vlad III, est-ce qu'ils croyaient l'évangile? Est-ce qu'ils allaient vivre éternellement? On peut se lever contre l'injustice sans être vraiment converti. Dieu veut qu'on applique ces principes-là à quelque chose qui est éternel. Quand on se sacrifie pour le bien dans ce monde, si on ne va pas assez loin avec le principe et qu'on n'applique pas le principe du bien et du mal vis-à-vis de l'éternité, en fin de compte, on suit l'égoïsme de ce monde. Qu'est-ce que je vais vivre pour ce que je pense être bon? C'est pour ça que quelqu'un qui se sacrifie dans ce monde incroyablement, prêt à mourir pour défendre la justice, il y en a eu. Il y en a eu beaucoup. S'ils ne vont pas plus loin par rapport à appliquer ces principes-là à l'éternité et réaliser leurs propres besoins personnels en tant que pécheur d'avoir la justice de Christ et d'accepter son pardon. Ça coûte court, ça tombe court. C'est comme essayer d'aider quelqu'un sur un bateau qui coule, le rendre plus confortable sur le bateau. Ça ne sert à rien, le bateau coule, c'est pas le besoin. Alors c'est là qu'on va appliquer ces principes-là à la contexte de l'éternité. Et dire aux gens, oui, c'est bien de se battre contre le mal, pour un pays au sens de défendre sa famille, c'est bien. Il y a ce principe-là. Mais il faut aller plus loin et dire l'Évangile nous demande de nous voir personnellement pris aussi de ce même problème-là, d'égoïsme,
et de se repentir et accepter le sacrifice du Christ et de sacrifier donc le aujourd'hui pour l'éternité. Je vais compléter les choses assez rapidement. Je vois que je dépasse un peu ça. La dernière chose donc que je veux dire, c'est que pour le chrétien, quand nous on a vu que ces choses-là, on doit les appliquer pour l'éternité, même là, le degré par lequel nous les chrétiens, on vit par égoïsme, il y a beaucoup de ramifications. Ça a changé quoi que des chrétiens n'ont pas voulu se déplacer pour aller voir les Philippiens? Peut-être ça a l'air anodin de ne pas faire un voyage, un autre état les pour eux. Ça ne change pas. Mais nous avons autant un ennemi cruel que le sultan et toutes ses hordes. Satan. Satan ne veut pas que les gens se convertissent. Satan veut les faire esclaves et les garder comme esclaves de leurs péchés. Satan veut les torturer, etc. Et la cause est en jeu. Combien de personnes n'entendent pas l'Évangile? Parce qu'au lieu de sacrifier ce qu'on peut pour la cause de l'Évangile, on est distrait par les choses de ce monde. Les ramifications, il faut les voir spirituellement. Combien de personnes sont mortes parce que des nobles veulent plutôt tirer à leur avantage la situation? Ah, là c'est temps de faire plus d'argent avec les musulmans. Mais combien de morts il y a à y avoir avec les musulmans qui rentrent? Combien d'esclaves, combien de femmes ont été prises pour être violées? Combien de vies détruites et de personnes empalées parce que quelqu'un tirait avantage? Combien de nous? On ne voit peut-être pas à l'horizon quand nous on est orgueilleux comme chrétiens et qu'on est égoïste et on veut faire selon notre volonté. On ne voit pas, juste au-delà de l'horizon, toutes les ramifications. Vous savez, les musulmans riaient quand ils savaient qu'il y en a qui ont tourné les uns contre les autres, qu'il y en a un qui a fait la traîtrise envers un autre. Ils riaient les chrétiens. Et je dis chrétiens au sens large. Combien Satan peut rire quand il voit qu'un chrétien, un vrai chrétien aujourd'hui, au lieu d'être pour la cause de Christ, il cherche son propre intérêt. Et combien de ramifications et de personnes qui n'entendent pas l'Évangile et qui restent esclaves de leur péché à cause de cela. On va prier. Seigneur Dieu, on te remercie pour ta parole. Tu veux que, quand tu as accepté, qu'on ne continue pas à suivre nos propres intérêts, mais qu'on cherche l'intérêt de Christ, parce qu'il y a une cause, il y a un ennemi. Il ne désire pas qu'aucun périsse cruellement dans les flammes de l'éternité. En enfer, Seigneur Dieu, aide-nous à avoir la pensée de Christ. Seigneur, on apprend des leçons de l'histoire, mais Seigneur Dieu, on doit les appliquer comme il faut aux causes éternelles. Seigneur Dieu, on te prie que tu puisses travailler dans chacun de nos cœurs, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Justement, quel est le sacrifice ultime que nous célébrons? Le sacrifice de Christ. On n'a pas regardé à ses propres intérêts. On va tourner dans le Corinthiens chapitre 11.